Les relations du moi avec le monde humain que nous avons examinées jusqu'ici se prêtent à de tels développements et nous ouvrent de si riches perspectives qu'en d'autres circonstances, on ne saurait trop s'y étendre. Mais nous ne nous proposions pour le moment que d'en indiquer les grandes lignes, et nous sommes forcés de nous interrompre pour passer à l'examen de deux autres côtés de la question. Je ne suis pas seulement en rapport avec les hommes en tant que représentant de l'idée d'homme ou en tant qu'enfant de l'homme. Pourquoi ne pas dire enfant de l'homme puisqu'on dit enfant de Dieu? Je suis en outre en rapport avec ce qu'ils tiennent de l'homme et appellent leur propriété. En d'autres termes, je suis en relation non seulement avec ce qu'ils sont comme hommes, mais encore avec leur avoir humain. Après avoir traité du monde des hommes, je dois donc, pour remplir le cadre que je me suis tracé, passer à l'examen du monde des sensations et des idées et dire quelques mots de ce que les hommes appellent leur propriété, les biens tant matériels que spirituels. Tandis que la notion d'homme se développait et qu'on en acquérait une intelligence plus claire, nous eûmes à la respecter successivement sous les diverses formes personnelles dont on la revêtit. Au dernier et du plus haut de ces avatars sortit enfin le commandement de respecter en chacun l'homme. Mais si je respecte l'homme, mon respect doit s'étendre également à tout ce qui est humain, à tout ce qui appartient à l'homme. Les hommes ont une propriété, devant cette propriété je dois m'incliner. Elle est sacrée. Leur propriété consiste en un avoir en partie extérieure et en partie intérieure. Leur avoir extérieur comprend des choses et leur avoir intérieur est formé de pensées, de convictions, de nobles sentiments, etc. Mais je ne suis jamais tenu de respecter que leur avoir humain. Je n'ai pas à ménager celui qui n'est pas humain, car les hommes ne peuvent avoir réellement en propre que ce qui est propre à l'homme. Parmi les biens intérieurs, on peut citer par exemple la religion. La religion étant libre, c'est-à-dire propre à l'homme, il ne m'est pas permis d'y toucher. Un autre de ses biens intérieurs est l'honneur. Étant libre, il m'est inviolable. Diffamation, caricature, etc. La religion et l'honneur sont une propriété spirituelle. Comme propriété matérielle vient en premier lieu la personne. Ma personne est ma propriété. De là résulte la liberté de la personne. Mais bien entendu, seule la personne humaine est libre. L'autre, la prison l'attend. Ta vie est ta propriété, mais elle n'est sacrée pour les hommes que si elle n'est pas la vie d'un non-homme. Les biens matériels dont l'homme ne peut justifier la possession par son humanité, il n'y a aucun titre et nous pouvons les lui prendre. D'où la concurrence sous toutes ses formes. Ceux des biens spirituels qu'il ne peut revendiquer comme homme sont également à notre disposition. D'où la liberté de la discussion, la liberté de la science et de la critique. Mais les biens consacrés sont inviolables. Qui les consacre et les garantit? À première vue, c'est l'État, la société. Mais plus proprement, c'est l'homme ou l'idée. L'idée d'une propriété sacrée implique l'idée que cette propriété est vraiment humaine ou plutôt que son possesseur ne la détient qu'en vertu de sa qualité d'homme et non à titre de non-homme. Dans le domaine spirituel, l'homme est légitime possesseur de sa foi, par exemple, et de son honneur, de sa conscience, de son sentiment du convenable et du honteux, etc. Les actes attentatoires à l'honneur, paroles, écrits, sont punissables de même ceux qui portent atteinte au fondement de la religion, à la foi politique, bref, toute lésion de ce à quoi l'homme a droit. Le libéralisme critique ne s'est pas encore prononcé sur la question de savoir jusqu'à quel point il pourrait admettre que les biens sont sacrés. Il pense bien être l'adversaire de toute sainteté, mais comme il lutte contre l'égoïsme, il doit lui tracer des limites et il ne peut tolérer que le non-homme les franchisse au préjudice de l'homme. Sa répulsion théorique pour la masse devrait, s'il arrivait au pouvoir, se traduire par des mesures de répulsion pratique. les représentants des différentes nuances du libéralisme sont en désaccord sur l'extension à donner à l'idée d'homme et sur ce qu'en doit retirer l'homme individuel, c'est-à-dire sur la définition de l'homme et de l'humain. L'homme politique, l'homme moral et l'homme humain ont revendiqué tour à tour, et toujours plus catégoriquement, le titre d'homme. Celui qui définit le mieux ce qu'est l'homme est aussi celui qui sait le mieux ce que doit avoir l'homme. Ce concept, l'État ne le saisit que dans son acception politique. La société, d'autre part, ne comprend que sa portée sociale. Seule, dit-on, l'humanité l'embrasse tout entier. L'histoire de l'humanité en est le développement. Découvrez l'homme et vous connaîtrez par le fait même ce qui est propre à l'homme, la propriété de l'homme ou l'humain. Mais que l'homme individuel prétende à tous les droits du monde, qu'il invoque à leur appui l'autorité de l'homme et son titre d'homme, que m'importe à moi son droit et ses prétentions? Ses droits, il ne les tient que de l'homme et non de moi. Aussi n'a-t-il à mes yeux aucun droit. Sa vie, par exemple, ne m'importe que pour autant qu'elle a une valeur pour moi. Je ne respecte pas plus son prétendu droit de propriété ou droit sur les biens matériels que je ne respecte son droit sur le sanctuaire de son âme ou droit de garder intacts ses biens spirituels, ses idoles et ses dieux. Ses biens, tant matériels que spirituels, sont à moi et je les traite en propriétaire selon mes forces. La question de la propriété, dans les termes où on la pose, n'en est pas une. Ne visant que ce qu'on nomme notre avoir, elle est trop étroite et n'est susceptible d'aucune solution. C'est à celui de qui nous tenons tout à la trancher. La propriété dépend du propriétaire, et par l'intermédiaire de ce dernier, la question de la propriété se rattache à un problème d'une porte beaucoup plus grande. La Révolution dirigea ses attaques contre tout ce qui vient de la grâce de Dieu et, entre autres, contre le droit divin que l'on remplaça par le droit humain. À ce que la faveur divine nous dispense, on opposa ce qui découle de l'essence de l'homme. Les relations entre les hommes, ayant cessé d'être fondées sur le dogme religieux qui commande « Aimez-vous les uns les autres pour l'amour de Dieu », durent être édifiées sur la base humaine du « Aimez-vous les uns les autres pour l'amour de l'homme. » De même, en ce qui concerne les relations des hommes avec les choses de ce monde, la doctrine révolutionnaire ne put faire autrement que de proclamer que le monde, jusqu'alors organisé selon l'ordre de Dieu, appartiendrait dorénavant à l'homme. Le monde appartient à l'homme et doit être par moi respecté comme sa propriété. Propriété égale mien. Propriété, au sens bourgeois du mot, signifie propriété sacrée, de sorte que je dois respecter ta propriété. Respect à la propriété. Aussi les politiques verraient-ils volontiers chacun posséder sa parcelle de propriété, et cette tendance a abouti dans certaines régions à un morcellement incroyable. Chacun doit avoir son os où il trouve quelque chose à ronger. L'égoïste voit la question sous un tout autre jour. Je ne recule pas avec un religieux effroi devant ta ou votre propriété. Je la considère toujours comme ma propriété que je n'ai pas à respecter. Traitez donc de même ce que vous appelez ma propriété. C'est en nous plaçant tous à ce point de vue qu'il nous sera le plus facile de nous entendre. Les libéraux politiques ont à cœur d'abolir autant que possible toutes les servitudes, afin que chacun soit franc maître de son champ. Ce champ n'eut-il que tout juste assez de surface pour que le fumier d'un homme suffit à l'engraisser. Que les cultivateurs se marient de bonne heure, afin de profiter du fumier de leur femme. Peu importe que le champ soit petit, pourvu qu'on ait le sien, qu'il soit une propriété et une propriété respectée. Plus il y aura de propriétaires, plus l'État sera riche en hommes libres et en bons patriotes. Le libéralisme politique, comme toute religiosité, compte sur le respect, l'humanité, la charité, aussi est-il perpétuellement déçu. Car dans la pratique de la vie, les gens ne respectent rien. Tous les jours, on voit de grands propriétaires arrondir leur domaine en accaparant les propriétés plus petites qui l'avoisinent. Et l'on voit tous les jours de petits propriétaires dépossédés, obligés de redevenir mercenaires ou fermiers sur le lopin de terre qui leur a été légalement extorqué. La concurrence couvre de son pavillon le dol et la violence. Et ce n'est pas de respect de la propriété qui peut s'opposer à ce brigandage. Si au contraire, les petits propriétaires s'étaient dit que la grande propriété, elle aussi, est à eux, ils ne s'en seraient pas d'eux-mêmes respectueusement écartés et on ne les expulserait pas. La propriété, telle que la comprennent les libéraux bourgeois, mérite les invectives des communistes et de Proudhon. Elle est insoutenable et inexistante, attendu que le citoyen propriétaire ne possède en réalité rien et est partout un banni. Loin que le monde puisse lui appartenir, le misérable coin où il vivote n'est même pas à lui. Proudhon ne veut pas entendre parler de propriétaire, mais bien de possesseur ou d'usufruitier. Qu'est-ce à dire ? Il veut que nul ne puisse s'approprier le sol, mais en ait l'usage. Mais ne lui accorda-t-on même que la centime partie du produit qu'il en tire, du fruit, cette fraction du moins serait sa propriété, et il pourrait en user à sa guise. Celui qui n'a que l'usage d'un champ n'est évidemment pas propriétaire de ce champ. Celui-là l'est moins encore qui doit, ainsi que le veut Proudhon, abandonner de ce produit tout ce qui ne lui est pas strictement nécessaire. Seulement, il est propriétaire du tantième qui lui reste. Proudhon ne nie donc que telle ou telle propriété, et non la propriété. Si nous voulons nous approprier le sol, au lieu d'en laisser l'aubaine aux propriétaires fonciers, unissons-nous, associons-nous dans ce but, et formons une société qui s'en rendra propriétaire. Si nous réussissons, ceux qui sont aujourd'hui propriétaires cesseront de l'être. Et de même que nous les aurons dépossédés de la terre et du sol, nous pourrons encore les expulser de maintes autres propriétés, pour en faire la nôtre, la propriété des ravisseurs. Les ravisseurs forment une société que l'on peut s'imaginer croissant et s'étendant progressivement au point de finir par embrasser l'humanité entière. Mais cette humanité elle-même n'est qu'une pensée, un fantôme, et n'a de réalité que dans les individus. Et ces individus pris en masse n'en useront pas moins arbitrairement avec la terre et le sol que ne le faisait l'individu isolé, le dit propriétaire. Ainsi donc, la propriété ne cesse pas de subsister et ne cesse même pas d'être exclusive du fait que l'humanité, cette vaste société, exproprie l'individu auquel elle affirme et donne peut-être en fief une parcelle, de même qu'elle exproprie tout ce qui n'est pas humanité. Elle ne reconnaît par exemple aucun droit de propriété aux animaux. Cela revient donc exactement au même. Ce à quoi tous veulent avoir part sera retiré à ce même individu qui veut l'avoir pour lui seul et sera érigé en bien commun. En tant que bien commun, chacun en a sa part, et cette part est sa propriété. C'est ainsi que, d'après notre vieux droit de succession, une maison qui appartient à 5 héritiers est leur bien commun, indivis, tandis qu'un cinquième seulement du revenu est la propriété de chacun. Proudhon aurait pu nous épargner son pathos lorsqu'il dit « Il est certaines choses qui ne sont la propriété que de quelques-uns, mais auxquelles nous prétendons et auxquelles désormais nous ferons la chasse. » Prenons-les, puisque c'est en prenant qu'on devient propriétaire, et puisque ce qui nous a manqué jusqu'à présent n'est passé aux mains des propriétaires actuels que par la prise. Associons-nous pour commettre ce vol. Il tâche de nous faire accepter l'idée que la société est le possesseur primitif et l'unique propriétaire de droits imprescriptibles. C'est envers elle que celui qu'on nomme propriétaire est coupable de vol. La propriété, c'est le vol. Si elle retire au propriétaire actuel ce qu'il détient, comme lui appartenant, elle ne le vole pas. Elle ne fait que rentrer en possession de son bien et user de son droit. Voilà où on en arrive lorsqu'on fait du fantôme société une personne morale. Ce que l'homme peut atteindre, voilà au contraire ce qui lui appartient. C'est à moi que le monde appartient. Et que dites-vous d'autre lorsque vous déclarez que le monde appartient à tous ? Tous, c'est moi, moi et encore moi. Mais vous faites de tous un fantôme que vous rendez sacré, de sorte que tous devient le redoutable maître de l'individu. Et c'est à son côté que se dresse alors le spectre du droit. Proudhon et les communistes combattent l'égoïsme. Aussi, leurs doctrines sont-elles la continuation et la conséquence du principe chrétien, du principe d'amour, de sacrifice, de dévouement, à une généralité abstraite, à un étranger. En ce qui concerne la propriété, par exemple, ils ne font que compléter et consacrer doctrinalement ce qui existe en fait depuis longtemps, l'incapacité de l'individu à être propriétaire. La loi nous déclare que le roi est propriétaire, lui seul peut user et disposer de tout. Les communistes ont rendu la chose plus claire en dotant de cet impérium la société de tous. Donc, étant des ennemis de l'égoïsme, ils sont des chrétiens, ou d'une façon plus générale, des hommes religieux, des visionnaires, subordonnés et asservis à une généralité, à une abstraction quelconque, Dieu, la société, etc. Proudhon se rapproche encore des chrétiens en ce qu'il accorde à Dieu ce qu'il dénie aux hommes. Il le nomme le propriétaire de la terre. Il montre ainsi qu'il ne peut se délivrer de l'idée qu'il doit exister quelque part un propriétaire. Il conclut en définitive à un propriétaire qu'il place seulement dans l'au-delà. Le propriétaire, ce n'est ni Dieu ni l'homme, la société humaine, c'est l'individu. Proudhon, comme Wetling, croit faire la pire injuste à la propriété en la qualifiant de vol. Sans vouloir soulever cette question embarrassante, y a-t-il une objection bien sérieuse à faire au vol ? Nous demanderons simplement. L'idée de vol peut-elle subsister si on ne laisse pas subsister l'idée de propriété ? Comment pourrait-on voler s'il n'y avait pas de propriété ? Ce qui n'appartient à personne ne saurait être volé. Celui qui puise de l'eau dans la mer ne vole pas. Par conséquent, la propriété n'est pas un vol. Ce n'est que par elle que le vol devient possible. Wetling, qui considère tout comme la propriété de tous, doit nécessairement aboutir à la même conclusion que Proudhon. Si quelque chose appartient à tous, l'individu qui se l'approprie est un voleur. La propriété privée ne vit que grâce au droit. Le droit est sa seule garantie, car posséder un objet n'est pas encore en être propriétaire. Ce que je possède ne devient ma propriété que par la sanction du droit. Elle n'est pas un fait, comme le pense Proudhon, mais une fiction, une idée. Une idée, voilà ce qu'est la propriété qu'engendre le droit, la propriété légitime, garantie. Ce n'est pas moi qui fais que ce que je possède est ma propriété, c'est le droit. Néanmoins, on désigne sous le nom de propriété le pouvoir illimité que j'ai sur les choses, objet, animal ou homme, dont je puis user et abuser à mon gré. Le droit romain définit la propriété. Un droit exclusif et illimité. Mais la propriété a pour condition la puissance. Ce qui est en mon pouvoir est à moi. Tant que je maintiens ma situation de possesseur d'un objet, j'en reste le propriétaire. S'il m'échappe, quelle que soit la force qui me l'enlève, le fait par exemple que je reconnais qu'un autre y a droit, voilà la propriété éteinte. Propriété et possession reviennent donc au même. Ce n'est point un droit extérieur à ma puissance qui me fait légitime propriétaire, mais ma puissance elle-même et elle seule. Si je la perds, l'objet m'échappe. Du jour où les Romains n'eurent plus la force de s'opposer aux Germains, Rome et les dépouilles du monde, que 10 siècles de toute puissance avaient entassées dans ses murs, appartinrent aux vainqueurs, et il serait ridicule de prétendre que les Romains en demeuraient néanmoins légitimes propriétaires. Toute chose est la propriété de qui sait la prendre et la garder, et reste à lui tant qu'elle ne lui est pas reprise. C'est ainsi que la liberté appartient à celui qui la prend. La force seule décide de la propriété, l'État, que ce soit l'État des bourgeois, des gueux ou tout uniment des hommes. Étant seul fort, est aussi seul propriétaire. Moi, l'unique, je n'ai rien, je ne suis qu'un métayer sur les terres de l'État, je suis un vassal et par suite un serviteur. Sous la domination de l'État, aucune propriété n'est à moi. Je veux accroître ma valeur, je veux lever le prix de toutes les propriétés dont est faite mon individualité. Et je déprécierai la propriété? Jamais. De même que je n'ai jamais été jusqu'à présent justement apprécié parce que l'on mettait toujours au-dessus de moi le peuple, l'humanité et sans autre abstraction. On n'a jamais non plus pleinement reconnu jusqu'à ce jour la valeur de la propriété. La propriété n'était que la propriété d'un fantôme, du peuple par exemple. Mon existence tout entière appartenait à la patrie. J'appartenais, et par suite, tout ce que je nommais mien appartenait à la patrie, au peuple, à l'État. On demande aux États de mettre fin au paupérisme. Autant vaudrait leur demander de se couper la tête et de la poser à leurs pieds. Car tant que l'État est un moi, le moi individuel doit rester un pauvre diable de non-moi. L'intérêt de l'État est d'être riche lui-même. Peu lui chaud que Pierre soit riche et Paul pauvre, il aimerait autant que ce fût Paul le riche et Pierre le pauvre. Il regarde l'un s'enrichir et l'autre s'appauvrir sans s'émouvoir de ce jeu de bascule. Comme individu, tous sont réellement égaux devant sa face, et en cela il a raison. Pauvres et riches ne sont pour lui rien, de même que devant Dieu, nous sommes tous de pauvres pécheurs. D'autre part, l'État a un très grand intérêt à ce que ces mêmes individus, qui font de lui leur moi, partagent ses richesses. Il les fait participer à sa propriété. La propriété dont il fait un appât et une récompense pour les individus, lui sert à les apprivoiser, mais elle reste sa propriété, et nul n'en a la jouissance qu'autant qu'il porte dans son cœur le moi de l'État, comme un membre loyal de la société qu'il est, sinon la propriété est confisquée ou fond en procès ruineux. La propriété est et reste donc la propriété de l'État, sans jamais être la propriété du moi. Dire que l'État ne retire pas arbitrairement à l'individu ce que l'individu tient de l'État revient simplement à dire que l'État ne se vole pas lui-même. Celui qui est un moi d'État, c'est-à-dire un bon citoyen ou un bon sujet, jouit de son fief en toute sécurité. Mais il en jouit comme moi d'État et non comme moi propre, comme individu. C'est ce qu'exprime le Code quand il définit la propriété, ce que je nomme mien, de par Dieu ou de par le droit. Mais Dieu et le droit ne le font mien que si l'État ne s'y oppose pas. En cas d'expropriation, de réquisition d'armes, etc., ou encore par exemple lorsque le fisc accueille une succession dont les ayants droit ne se sont pas présentés dans les délais légaux, le principe, habituellement voilé, saute aux yeux de tous. Le peuple, l'État, est seul propriétaire. L'individu n'est que fermier, tenancier, vassal. Je voulais dire ceci. L'État ne peut se proposer de faire qu'un individu soit propriétaire dans son propre intérêt à lui, individu. Il ne peut vouloir que je sois riche ou même que je possède seulement quelque aisance. Pour autant que je suis moi, l'État ne peut rien me reconnaître, rien me permettre, rien m'accorder. L'État ne peut obvier au paupérisme, parce que l'indigence est mon indigence. Celui qui n'est que ce que font de lui les circonstances ou la volonté d'un tiers, l'État, n'a non plus, et c'est parfaitement juste, que ce que ce tiers lui accorde. Et ce tiers ne lui donnera que ce qu'il mérite, c'est-à-dire le salaire de ses services. Ce n'est pas lui qui se fait valoir et qui tire de soi-même le meilleur parti possible, c'est l'État. Ce sujet est de ceux que l'économie dite politique traite avec prédilection. Il n'est cependant pas du domaine de la politique et dépasse de 100 coudées l'horizon de l'État, qui ne connaît que la propriété de l'État et ne peut répartir qu'elle. L'État ne peut faire autrement que de soumettre la possession de la propriété à des conditions, comme il y soumet tout, par exemple, le mariage qu'il soustrait à ma puissance en admettant comme valable que le mariage, par lui, sanctionné. Mais une propriété n'est ma propriété que si elle est à moi sans condition. Ce n'est que si je suis inconditionné que je puis être propriétaire, m'unir à la femme que j'aime et me livrer librement à un commerce. L'État ne s'inquiète ni de moi ni du mien. Il ne se préoccupe que de soi et du sien. Si j'ai une valeur à ses yeux, ce n'est que comme son enfant, enfant du pays, etc. Comme moi, je ne lui suis rien. Ma vie, ses hauts et ses bas, ma fortune ou ma ruine, ne sont pour l'intelligence de l'État qu'une contingence, un accident. Mais si moi et le mien ne sommes pour lui qu'un accident, qu'est-ce que cela prouve sinon qu'il est incapable de me comprendre ? Je dépasse sa compréhension ou, en d'autres termes, son intelligence est trop courte pour me saisir. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il ne puisse rien faire pour moi. Le paupérisme est un corollaire de la non-valeur du moi, de mon impuissance à me faire valoir. Aussi, État et paupérisme sont-ils deux phénomènes inséparables. L'État n'admet pas que je me mette moi-même à profit, et il n'existe qu'à condition que je n'ai pas voix au marché. Toujours il vise à tirer parti de moi, c'est-à-dire à m'exploiter, à me dépouiller, à me faire servir à quelque chose, ne fût-ce qu'à soigner une prole, prolétariat. Il veut que je sois sa créature. Le paupérisme ne pourra être enrayé que du jour où ma valeur ne dépendra plus que de moi, où je la fixerai moi-même et ferai moi-même mon prix. Si je veux me voir en hausse, c'est à moi à me hausser et à me soulever. Quoi que je fasse, que je fabrique de la farine ou du coton, ou que j'extrais à grand-peine du sol le fer et le charbon, c'est là mon travail et je veux en tirer moi-même tout le profit possible. Me plaindre ne servirait de rien, mon travail ne sera pas payé ce qu'il vaut. L'acheteur ne m'écoutera pas et l'État fera de même la sourde oreille jusqu'au moment où il croira nécessaire de m'apaiser pour prévenir l'explosion de ma redoutable puissance. Mais ces moyens d'apaisement dont il use en guise de soupape de sûreté sont tout ce que je puis attendre de lui. Si je m'avise de réclamer plus, l'État se tournera contre moi et me fera sentir ses griffes et ses serres, car il est le roi des animaux, le lion et l'aigle. Si le prix qu'il fixe à mon travail et à mes marchandises ne me satisfait pas, et si je tente de fixer moi-même la valeur d'échange de mes produits, c'est-à-dire de faire en sorte que je sois payé de mes peines, je me heurterai à une fin de non-recevoir absolue chez le consommateur. Si ce conflit se dénouait par un accord entre les deux parties, l'État n'y trouverait rien à redire, car peu lui importe comment les particuliers s'arrangent entre eux, du moment que leur entente ne lui cause aucun préjudice. Il ne se juge lésé et mis en péril que si, ne parvenant pas à trouver un terrain d'entente, les antagonistes se prennent aux cheveux. Ce sont là des relations immédiates d'homme à homme que l'État ne peut tolérer. Il doit s'interposer comme médiateur, il doit intervenir. L'État, en assumant ce rôle de tampon, est devenu ce qu'était Jésus-Christ, ce qu'étaient l'Église et les saints, un entremetteur. Il sépare les hommes et s'interpose entre eux comme l'Esprit. Les ouvriers qui réclament une augmentation de salaire sont traités en criminels dès qu'ils tentent de l'arracher de force au patron. Que doivent-ils faire ? S'ils n'usent pas de leur force, ils s'en retourneront les mains vides. Mais user de sa force, recourir à la contrainte, c'est mettre en pratique le « aide-toi toi-même ». C'est se faire valoir soi-même, tirer librement et réellement de sa propriété ce qu'elle vaut. Toute chose que l'État ne peut tolérer. Que faire donc, diront les travailleurs. Que faire ? Vous comptez. Ne comptez que sur vous-même et ne pas vous occuper de l'État. Voilà pour le travail de mes bras. Il en va de même du travail de mon cerveau. L'État me permet de tirer profit de toutes mes pensées et d'en faire l'objet d'un commerce avec les hommes. J'en tire déjà un prix, du seul fait, par exemple, qu'elles me valent l'estime ou l'admiration des auditeurs. Il me le permet, mais pour autant seulement que mes pensées soient ses pensées. Si je nourris au contraire des pensées qu'il ne peut approuver, c'est-à-dire faire siennes, il m'interdit formellement d'en réaliser la valeur, et de les échanger et d'en commercer. Mes pensées ne sont libres que lorsque l'État les agrée, c'est-à-dire lorsqu'elles sont des pensées de l'État. Il ne me laisse philosopher en liberté que si je me montre philosophe d'État. Mais je ne puis pas philosopher contre l'État, bien qu'il me permette volontiers de remédier à ses imperfections, de le redresser. De même, donc, je ne puis considérer mon moi comme légitime que s'il porte l'estampille de l'État et s'il peut exhiber les certificats et passeports que ce dernier lui a gracieusement accordés. De même, je ne suis autorisé à faire valoir mon mien que si je le tiens pour le sien, pour un fief relevant de l'État. Mes chemins doivent être ses chemins, sinon il me met à l'amende, et mes pensées ses pensées, sinon il me bâillonne. Rien n'est plus redoutable pour l'État que la valeur du moi. Il n'est rien dont ils doivent plus soigneusement me tenir à l'écart que de toute occasion de m'exploiter moi-même. Je suis l'adversaire inconciliable de l'État qui ne peut échapper à l'étau du dilemme, lui ou moi. Aussi s'attache-t-il non seulement à paralyser le moi, mais encore à annihiler le mien. Il n'y a dans l'État aucune propriété, c'est-à-dire aucune propriété de l'individu. Il n'y a que des propriétés de l'État. Ce que j'ai, je ne l'ai que par l'État. Ce que je suis, je ne le suis que par lui. Ma propriété privée n'est que ce que l'État me concède du sien, en frustrant, privant, d'autres de ses membres. C'est toujours une propriété de l'État. Mais quoi que fasse l'État, je sens toujours plus clairement qu'il me reste une puissance considérable. J'ai un pouvoir sur moi-même, c'est-à-dire sur tout ce qui n'est et ne peut être qu'à moi et qui n'existe que parce que c'est mien. Que faire quand mon chemin n'est plus le sien, quand mes pensées ne sont plus les siennes? Passer outre et ne compter qu'avec moi-même et sur moi-même. Ma propriété réelle, celle dont je puis disposer à mon gré, dont je puis trafiquer à ma guise, ce sont mes pensées, qui n'ont que faire d'une sanction et qu'il m'importe peu de voir légitimer par une destination, une autorisation ou une grâce. Étant miennes, elles sont mes créatures et je puis les abandonner pour d'autres. Si je les cède en change d'autres, ces autres deviennent à leur tour ma propriété. Qu'est-ce donc que ma propriété? Ce qui est en ma puissance et rien d'autre. À quoi suis-je légitimement autorisé? À tout ce dont je suis capable. Je me donne le droit de propriété sur un objet par le seul fait que je m'en empare, ou en d'autres termes, je deviens propriétaire de droit chaque fois que je me fais de force propriétaire. En me donnant le pouvoir, je me donne le titre. Tant que vous ne pouvez m'arracher mon pouvoir sur une chose, cette chose demeure ma propriété. Eh bien, soit. Que la force décide de la propriété, et j'attendrai tout de ma force. La puissance étrangère, la puissance que je laisse à autrui, a fait de moi un serf. Puisse ma propre puissance faire de moi un propriétaire. Que je rentre donc en possession de la puissance que j'ai abandonné aux autres, ignorant que j'étais de la valeur de mes forces. À mes yeux, ma propriété s'étend jusqu'où s'étend mon bras. Je revendiquerai comme mien tout ce que je suis capable de conquérir et je ne verrai à ma propriété d'autres limites réelles que ma force, unique source de mon droit. Ici, c'est à l'égoïsme, à l'intérêt personnel de décider et non pas au principe d'amour, aux raisons de sentiments tels que charité, indulgence, bienveillance ou même équité et justice. Car la justice aussi est un phénomène d'amour, un produit de l'amour. L'amour ne connaît que le sacrifice et exige le dévouement. Sacrifier quelque chose? Se priver de quelque chose? L'égoïste n'y songe pas. Il dit simplement « ce dont j'ai besoin, il me le faut et je l'aurai ». Toutes les tentatives faites pour soumettre la propriété à des lois rationnelles ont leur source dans l'amour et aboutissent à un orageux océan de réglementation et de contraintes. Le socialisme et le communisme ne font eux-mêmes pas exception à la règle. Chacun doit être pourvu de moyens d'existence suffisants et peu importe que ces moyens, on les trouve, selon l'idée socialiste, dans une propriété personnelle ou qu'avec les communistes, on les puise dans la communauté des biens. Les individus ne cesseront en aucun cas de se sentir dépendants. La cour arbitrale que vous chargerez de répartir équitablement les biens ne m'accordera que la part que m'aura mesurée son esprit d'équité, son bienveillant souci des besoins de tous. Moi, l'individu, je ne vois pas un moindre obstacle dans la richesse de la collectivité que dans la richesse des autres individus, car ni l'une ni l'autre ne m'appartient. Que les biens soient entre les mains de la communauté qui m'en accorde une partie ou entre les mains des particuliers, il en résulte toujours pour moi la même contrainte, attendu que je ne puis en aucun cas en disposer. Bien plus, en abolissant la propriété personnelle, le communisme ne fait que me rejeter plus profondément sous la dépendance d'autrui. Autrui s'appelant désormais la généralité ou la communauté. Bien qu'il soit toujours en lutte ouverte contre l'État, le but que poursuit le communisme est un nouvel État, un statut, un ordre de choses destiné à paralyser la liberté de mes mouvements. Un pouvoir souverain supérieur à moi, il s'oppose avec raison à l'oppression dont je suis victime de la part des individus propriétaires, mais le pouvoir qu'il donne à la communauté est plus tyrannique encore. C'est par une autre voie que l'égoïsme marche vers la suppression de la misère de la plèbe. Il ne dit pas « Attends ce que l'autorité quelconque chargée de partager les biens au nom de la communauté te donnera dans son équité, car c'est d'un don qu'il s'agit depuis toujours dans les États, chacun y recevant selon ses mérites, c'est-à-dire ses services. » Il dit « Mets ta main sur ce dont tu as besoin, prends-le. » C'est la déclaration de guerre de tous contre tous. Moi seul suis juge de ce que je veux avoir. En vérité, cette sagesse-là n'est pas nouvelle, car c'est ainsi qu'en ont de tout temps usé les égoïstes. Peu importe que la chose ne soit pas neuve, si ce n'est que d'aujourd'hui qu'on en a conscience, et cette conscience ne peut prétendre à une bien haute antiquité, à moins que vous ne la fassiez remonter aux lois de l'Égypte et de Sparte. Il suffirait de votre objection et du mépris avec lequel vous parlez de l'égoïste pour prouver qu'elle est peu répandue. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'acte de mettre la main sur un objet, de s'en emparer, n'est nullement méprisable. Il est purement le fait de l'égoïste conscient et conséquent avec lui-même. Ce n'est que quand je n'attendrai plus ni des individus, ni de la communauté ce que je puis me donner moi-même, que j'échapperai aux chaînes de l'amour. La plèbe ne cessera d'être la plèbe que du jour où elle prendra. Elle n'est plèbe que parce qu'elle a peur de prendre et peur du châtiment qui s'ensuivrait. Prendre est un péché, prendre est un crime. Voilà le dogme, et ce dogme à lui seul suffit pour créer la plèbe. Mais si la plèbe reste ce qu'elle est, à qui la faute ? À elle d'abord qui admet ce dogme, et à ceux-là ensuite qui, par égoïsme, pour leur renvoyer leur injure favorite, veulent qu'ils soient respectés. On n'a pas conscience de cette sagesse nouvelle, et c'est la vieille conscience du péché qui en est cause. Si les hommes parviennent à perdre le respect de la propriété, chacun aura une propriété, de même que tous les esclaves deviennent hommes libres dès qu'ils cessent de respecter en leur maître un maître. Alors pourront se conclure des alliances entre individus, des associations égoïstes qui auront pour effet de multiplier les moyens d'action de chacun et d'affermir sa propriété sans cesse menacée. Selon les communistes, la communauté doit être propriétaire. C'est au contraire moi qui suis propriétaire et je ne fais que m'entendre avec d'autres au sujet de ma propriété. Si la communauté va à l'encontre de mes intérêts, je m'insurge contre elle et je me défends. Je suis propriétaire, mais la propriété n'est pas sacrée. Ne serais-je donc que possesseur ? Eh non, jusqu'à présent, on n'était que possesseur. On ne s'assurait la jouissance d'une parcelle qu'en laissant les autres jouir de la leur. Mais désormais, tout m'appartient. Je suis propriétaire de tout ce dont j'ai besoin et dont je puis m'emparer. Si le socialiste dit « La société me donne ce qu'il me faut », l'égoïste répond « Je prends ce qu'il me faut ». Si les communistes agissent en gueux, l'égoïste agit en propriétaire. Toutes les tentatives ayant pour but le soulagement des classes misérables doivent échouer si elles prennent pour principe l'amour. C'est de l'égoïsme seul que la plèbe doit attendre quelque aide. Cette aide, elle doit se la prêter à elle-même, et c'est ce qu'elle fera. La plèbe est une puissance pourvu qu'elle ne se laisse pas dompter par la crainte. Les gens perdraient tout respect si on ne les forçait pas à avoir peur, disait l'épouvantail au chaboté. La propriété ne doit et ne peut donc pas être abolie. Ce qu'il faut, c'est l'arracher au fantôme pour en faire ma propriété. Alors s'évanouira cette illusion que je ne suis pas autorisé à prendre tout ce dont j'ai besoin. Mais de combien de choses l'homme n'a-t-il pas besoin ? Celui qui a besoin de beaucoup et qui s'entend à le prendre, s'est-il jamais fait faute de se l'approprier ? Napoléon a pris l'Europe et les Français, Alger. Ce qu'il faudrait, c'est que la plèbe, que le respect paralyse, apprenne enfin à se procurer ce qu'il lui faut. Si elle va trop loin et si vous vous jugez lésé, eh bien, défendez-vous. Il n'est pas nécessaire que vous lui fassiez bénévolement des cadeaux. Quand elle apprendra à se connaître, ou plutôt quand ceux de la plèbe apprendront à se connaître, ils cesseront d'en faire partie par là même qu'ils refuseront vos aumônes. Mais il est parfaitement ridicule de déclarer pécheur et criminel celui qui ne prétend plus vivre de vos bienfaits et veut se tirer d'affaire lui-même. Vos dons le trompent et lui font prendre patience. Défendez votre propriété, vous serez fort. Mais si vous voulez garder la faculté de donner et jouir d'autant plus de droits politiques que vous pouvez faire plus d'aumônes, taxes des pauvres, cela durera ce que ceux que vous gratifiez de vos dons permettront que cela dure. La question de la propriété n'est pas, je crois l'avoir montré, aussi simple à résoudre que se l'imaginent les socialistes et même les communistes. Elle ne sera résolue que par la guerre de tous contre tous. Les pauvres ne deviendront libres et propriétaires que lorsqu'ils s'insurgeront, se soulèveront, s'élèveront. Quoi que vous leur donniez, ils voudront toujours davantage, car ils ne veulent rien de moins que la suppression de tout don. On demandera, mais que se passera-t-il quand les sans fortune auront pris courage ? Comment s'accomplira le nivellement ? Autant vaudrait me demander de tirer l'horoscope d'un enfant. Ce que fera un esclave quand il aura brisé ses chaînes ? Attendez, et vous le saurez. La concurrence est étroitement liée au principe de la bourgeoisie. Est-elle autre chose que l'égalité ? Et l'égalité n'est-elle pas précisément un produit de cette révolution dont la bourgeoisie ou la classe moyenne fut l'auteur ? Il n'est défendu à personne de rivaliser avec tous les autres membres de l'État, le prince excepté, parce qu'il représente l'État. Chacun peut travailler à s'élever au rang des autres et à les surpasser, voire même à les ruiner, les dépouiller et leur arracher jusqu'au dernier lambeau de leur fortune. Cela prouve à toute évidence que, devant le tribunal de l'État, chacun n'a la valeur que d'un simple individu et ne doit compter sur aucune faveur. Surpassez-vous l'un l'autre, enrichissez l'un sur l'autre, tant que vous voulez et tant que vous pouvez, moi, l'État, je n'ai rien à y voir. Vous êtes libre de concourir entre vous, vous êtes concurrent et la concurrence est votre position sociale. Mais devant moi, l'État, vous n'êtes que de simples individus. L'égalité que l'on a théoriquement établie en principe entre tous les hommes trouve sa mise en application et sa réalisation pratique dans la concurrence, car l'égalité n'est que la libre concurrence. Tous sont, vis-à-vis de l'État, de simples particuliers, et dans la société, c'est-à-dire vis-à-vis les uns des autres, des concurrents. Je n'ai pas à être autre chose qu'un simple particulier pour pouvoir concourir avec tout autre homme, sauf le prince et sa famille. Cette liberté était jadis impossible, attendu qu'on ne jouissait de la liberté de se faire valoir que dans la corporation et par la corporation. Sous le système des corporations et de la féodalité, l'État accordait des privilèges, tandis que sous le régime de la concurrence et du libéralisme, il se borne à accorder des patentes, brevets donnés à un candidat et établissant que telle profession lui est ouverte, patente. Mais la libre concurrence est-elle bien réellement libre ? Est-elle même vraiment une concurrence, c'est-à-dire un concours entre les personnes ? c'est ce qu'elle prétend être, puisqu'elle fonde justement son droit sur ce titre. Elle est née, en effet, du fait que les personnes ont été affranchies de toute domination personnelle. Peut-on dire que la concurrence est libre quand l'État, que le principe de la bourgeoisie fait souverain, s'ingénie à la restreindre de mille façons? Voici un riche fabricant qui fait de brillantes affaires, et je voudrais lui faire la concurrence. « Fais, dit l'État, je ne vois, pour ma part, rien qui s'oppose à ce que tu le fasses. « Oui, mais il me faudrait de la place pour mon installation, il me faudrait de l'argent. » « C'est regrettable, mais si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas songer à concourir. Et il ne s'agit pas que tu prennes rien à personne, car je protège la propriété et ses privilèges. » La libre concurrence n'est pas libre parce que les moyens de concourir, les choses nécessaires à la concurrence, me font défaut. Contre ma personne, on n'a rien à objecter, mais comme je n'ai pas la chose, il faut que ma personne renonce. Et qui est en possession des moyens? Qui a ces choses nécessaires? Est-ce peut-être tel ou tel fabricant? Non, car dans ce cas, je pourrais les lui prendre. Le seul propriétaire, c'est l'État. Le fabricant n'est pas le propriétaire. Ce qu'il possède, il ne l'a qu'à titre de concession, de dépôt.